Bien, durant la séance précédente, j'espère que vous vous en souvenez, nous avons noté combien le système, la société, l'ancien régime ottoman était en voie de décomposition. Et on le voit par exemple dans les changements de termes. En 1835, le terme de sujet est abandonné par la langue officielle ottomane pour qualifier la population non plus de sujet mais de ressortissant des barres de l'Empire ottoman, ce qui montre que l'image ancienne du pouvoir est en train de se transformer. Comme je vous l'ai expliqué, les relations entre musulmans et non-musulmans ont été remises en cause, le système fiscal a été remis en cause, le système militaire est remis en cause. Mais ce n'est pas seulement que les éléments essentiels de l'ancien régime sont remis en cause, c'est qu'il y a aussi des éléments dynamiques, il y a des mouvements, des groupes qui peuvent se saisir de la conjoncture. Et ce qui est essentiel pour comprendre le mouvement, c'est l'élite gouvernementale ottomane, avec son prolongement égyptien qui se trouve dans la même situation. J'ai largement expliqué qu'ils avaient le statut théorique d'esclaves gouvernants de façon non héréditaire. Et la grande ambition de l'élite dirigeante, des gouvernants, c'est le terme exact qui est utilisé en arabe, rukam, des gouvernants, veulent la sécurité de leurs biens et de leurs personnes et la possibilité à ce que leurs fils, pas leurs filles évidemment, puissent accéder après eux aux fonctions de gouvernement. Il y a donc un projet de stabilisation de la classe dirigeante, mais il y a en même temps une nécessité de sécurité pour la classe dirigeante, puisque même Ettali et Mahmoud II ont été deux terribles despotes sanglants et, n'hésitant pas à l'exécution sommaire ou à la tasse de café amère, selon la bonne tradition ottomane. Ce qui est essentiel, c'est que cette classe dirigeante est entrée dans un processus de fusion avec le monde des notables, qui théoriquement ne faisait pas partie de la classe dirigeante, mais qui, on l'a montré pour la période précédente, avait des liaisons économiques et matrimoniales entre la classe dirigeante et le monde des notables. Ils veulent éviter un retour en force de l'autoritarisme. En même temps, cette génération de 1840, elle est mieux informée. Ça fait maintenant près d'un demi-siècle que l'imprimerie fonctionne à Constantinople et depuis 20 ans en Égypte. Il y a une grande révolution intellectuelle qui est en train de s'amorcer en terre d'islam. Au début, évidemment, l'imprimerie a servi à imprimer des textes administratifs et des manuels techniques. Mais ensuite, la production s'est développée selon deux axes essentiels. Le premier axe de la publication des imprimés est orienté sur la connaissance du monde contemporain. On a eu l'exemple tout à l'heure quand j'ai parlé de la publication en arabe et en turc de la description de la France de Tartawi. Mais le second axe de l'imprimé, de la publication des imprimés, est l'édition pour la première fois des grands classiques du patrimoine culturel arabe et islamique. Et on a donc là les deux grandes orientations. La modernité plus le patrimoine qui va alimenter tous les débats intellectuels de la société musulmane pour le reste du XIXe siècle et évidemment bien au-delà. Alors, cette classe dirigeante va profiter de la mort de Mahmoud II en 1839, avant que la crise soit terminée. Et on profite de l'avènement au trône du jeune Abdelmejid. Un homme de jeune, à l'époque, il était tout jeune. Ça se voit sur sa, je dirais, sa photo, cette peinture. Pour imposer un programme de réforme allant dans le sens des intérêts de l'État. C'est donc à partir de ce moment qu'on va parler de l'ère des réformes, l'ère de la réorganisation, Tanzimat en turc et en arabe. Tanzimat, les réformes, la réorganisation, on pourrait traduire ça en français. Et le texte programmatique et l'édit dit de Gül-Hane, le pavillon des roses, parce que c'était le pavillon où on entreposait les confitures de roses dans le palais impérial de Topkapı à Constantinople. Et c'est là où l'édit a été lu, le 2 novembre 1839. De façon intéressante, nous avons deux textes, enfin deux versions, enfin deux textes de Gül-Hane. Nous avons le texte turc, enfin ottoman, et un texte en français qui a été transmis comme version officielle par le gouvernement ottoman aux ambassades européennes. Le fait même qu'on rédige une version française, langue internationale, est déjà significative des rapports de force dans le cadre de la question d'Orient. Et l'édit analyse d'abord la situation comme 150 ans de crise qui aboutissent à la situation de 1839. Mais en même temps, on annonce que les réformes respecteront l'islam. Alors, je cite, « Tout le monde sait que dans les premiers temps de la monarchie ottomane, les préceptes glorieux du Coran et les lois de l'Empire étaient une règle toujours honorée. En conséquence, l'Empire croissait en force et en grandeur et tous les sujets sans exception avaient acquis au plus haut degré l'aisance et la prospérité. Depuis 150 ans, une succession d'accidents et de causes diverses. » 150 ans, c'est à peu près l'échec devant Vienne, hein, 1682. « On fait qu'on a cessé de se conformer au code sacré des lois et aux règlements qui en découlent, et la force et la prospérité antérieures se sont changées en faiblesse et en appauvrissement. C'est qu'en effet, un empire perd toute stabilité quand il cesse d'observer ses lois. » Donc, l'édit se présente comme conservateur, comme un retour aux sources. Mais ensuite, on voit qu'on a un programme que l'on pourrait qualifier de libéral. Les institutions doivent principalement porter sur trois points qui sont 1. Les garanties qui assurent à nos sujets une parfaite sécurité qu'attend leur vie, leur honneur et leur fortune. 2. Un mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts. 3. Un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service. Et ça, ça paraît pas si évident que ça au départ, puisqu'on insiste fortement pour faire comprendre le message. Et en effet, la vie et l'honneur ne sont-ils pas les biens les plus précieux qui existent? Quel homme, quel que soit l'éloignement que son caractère lui inspire pour la violence, pourra s'empêcher d'y avoir recours et de nuire par là au gouvernement et au pays si sa vie et son honneur sont mis en danger? Si au contraire, il jouit à cet égard d'une sécurité parfaite, il ne s'écartera pas les voies de la loyauté et tous ses actes concourront au bien du gouvernement et de ses frères. » Donc, on voit qu'il s'agit là, évidemment, des exigences fondamentales de la classe dirigeante d'assurer sa propre sécurité. S'il y a absence de sécurité à l'égard de la fortune, tout le monde reste froid à la voix du prince et de la patrie. Personne ne s'occupe du progrès de la fortune publique, absorbé que l'on est par ses propres inquiétudes. Si au contraire le citoyen, ou le ressortissant, mais ils ont utilisé le terme français citoyen, possède avec confiance ses propriétés de toute nature, alors plein d'ardeur pour ses affaires dont il cherche à élargir le cercle afin d'étendre celui de ses jouissances, il sent chaque jour redoubler en son cœur l'amour du prince et de la patrie, le dévouement à son pays. Vous voyez, donc, un mélange entre une vision traditionnelle de justice islamique et du libéralisme moderne. Et ensuite, on passe aux applications concrètes, qui sont d'abord une réforme fiscale, avec la suppression des fermes fiscales et l'adoption d'une modalité d'impôt direct. Il est donc nécessaire que désormais chaque membre de la société ottomane soit taxé pour une quantité d'impôt déterminée en raison de sa fortune et de ses facultés, et que rien au-delà ne puisse être exigé de lui. Il faut aussi que des lois spéciales fixent et limitent les dépenses de nos armées de terre et de mer. Ensuite, on passe sur l'établissement de la conscription qui doit être régulièrement organisée pour une durée déterminée, et on doit assurer le paiement des soldes, etc. En résumé, sans les diverses lois dont on vient de voir la nécessité, il n'y a pour l'Empire ni force ni richesse, ni bonheur ni tranquillité. Il doit au contraire les attendre de l'existence de ces lois nouvelles. C'est pourquoi désormais la cause de tout prévenu sera jugée publiquement conformément à notre loi divine après enquête et examen, et tant qu'un jugement régulier ne sera point intervenu, personne ne pourra secrètement ou publiquement faire périr une autre personne par le poison ou tout autre supplice. Donc là, on voit directement que les pachas, ils ont assez de recevoir la tasse de café de la part du dit sultan et que c'est vraiment signé. Là, le texte. Alors, c'est presque par accident que l'édit du Gulané mentionne les non-musulmans. Ces concessions impériales s'étendant à tous nos sujets, de quelque religion ou secte qu'ils puissent être, ils en jouiront sans exception. Une sécurité parfaite est donc accordée par nous aux habitants de l'Empire dans leur vie, leur honneur et leur fortune, ainsi que l'exige le texte sacré de notre loi. Alors, ce texte était fondamental. L'édit de Gulané, et bon, c'est un peu l'équivalent de la Grande Charte pour les pays musulmans, c'est le texte fondamental intronisant la modernité politique, économique et sociale dans les sociétés musulmanes. Et ça, ça avait été parfaitement compris en Europe en 1839. Et la question qui reste une question fondamentale jusqu'à nos jours a été aussi parfaitement saisie par les conservateurs européens. Est-il possible d'entreprendre une régénération de l'Empire ottoman qui se moderniserait tout en restant fidèle à lui-même, c'est-à-dire musulman? Où risque-t-on de se trouver devant une stérile contrefaçon des institutions européennes? Telle est la réflexion du plus grand penseur conservateur européen de l'époque, le prince de Metternich, qui envoie cette réflexion, ses notes à l'ambassadeur autrichien à Constantinople. Un État doit avant tout être lui-même s'il veut être fort. En se pénétrant de cette nécessité, il pourra beaucoup, tandis que dans la voie opposée, il ne sera jamais qu'une pâle contrefaçon de ce qui ailleurs pêche peut-être à son tour par les bases. Nous qui suivons cette règle et qui savons en toutes circonstances l'appliquer à nous-mêmes, nous fournissons certes au gouvernement ottoman une preuve du franc et sincère intérêt que nous prenons à sa conservation en lui demandant de rester musulman. Ça, c'est le prince de Metternich. L'adversaire de Napoléon, bien évidemment. Et en effet, assez rapidement, les conservateurs européens trouveront que les modernisations ottomanes sont du plaquage. Nous avons ici un exemple que je vais vous citer, qui est tiré des mémoires de Guizot, écrit dans les années 1850, mais qui porte évidemment sur l'action politique de Guizot dans les années 1840 quand il était président du Conseil en France. Je cite. « Plus j'ai causé et traité avec les politiques musulmans, les plus considérables, les plus éclairés de leurs pays divers, plus j'ai été frappé du vide et de l'impuissance qu'ils révélaient eux-mêmes dans cet islamisme, à l'époque on dit islamisme pour islam, dont ils étaient les représentants. C'est le double de christianisme. Tous étaient au fond tristes et inquiets de l'état de leur gouvernement et de leur nation. Tous se montraient préoccupés d'un certain besoin de réforme, mais il n'y avait dans leurs idées et leurs efforts en ce sens ni spontanéité ni fécondité. Ils ne pensaient point, ils n'agissaient point sous l'impulsion de la pensée propre de l'activité intérieure de la société musulmane. Leurs désirs, leurs travaux réformateurs n'étaient que de pénibles emprunts à la civilisation européenne et chrétienne. Ça, Guizot, mon bon protestant, est un défenseur de la civilisation chrétienne. Emprunt contracté uniquement pour soutenir une vie chancelante en s'assimilant un peu à des étrangers au voisinage et à la puissance desquels on ne pouvait échapper. L'imitation et la crainte sont deux dispositions essentiellement stériles. L'imitation ne pénètre point les masses et la contrainte demeure sans sincérité. Livrés eux-mêmes, tous ces musulmans, turcs, égyptiens, arabes, n'auraient rien fait de ce qu'on essayait sur eux. Et pour quiconque n'était pas enclin ou obligé à se payer d'apparence, tout ce qu'on essayait était superficiel et vain. Donc là, nous avons la vision des conservateurs européens sur la modernisation ottomane comme un placage vide et stérile. Ce qui est certain, c'est que l'édit est un mélange de pensée européenne et d'idées traditionnelles de justice, puisque toutes les sociétés d'Ancien Régime, y compris la société ottomane, est une société de justice. C'était l'idéologie centrale de l'État. Et la première crise immédiate après Gulenet et après l'évacuation de la Syrie et de la Palestine par Ibrahim Pacha est justement les problèmes religieux chrétiens dont se passeraient bien volontiers les Ottomans. Comme je vous ai dit que nos protestants étaient partisans de la fin des temps, de l'accomplissement des prophéties, ils étaient absolument persuadés que la crise de 1840-1841, avec les risques de guerre européenne, était un signe des temps et que le millénium allait arriver. Et donc, il y a eu une poussée millénariste en Grande-Bretagne en 1840, et un certain nombre de personnalités assez importantes dans l'aristocratie britannique ont fait pression sur le ministre des Affaires étrangères britannique, Lord Palmerston, pour lui demander de mettre la Palestine sous tutelle afin d'y favoriser l'installation de juifs européens, ce qui aurait été une étape dans la voie de l'accession au millénium. Le gouvernement britannique, comme tout bon gouvernement qui se respecte, transforme cette demande mystique en projet politique de protection anglaise sur les Juifs de l'Empire ottoman, qui recevraient le droit de soumettre leur grief à la porte par le biais des diplomates britanniques à Constantinople. Autrement dit, Lord Palmerston demande en 1840 à que les Juifs ottomans bénéficient de la protection anglaise, comme les catholiques bénéficient de la française et les orthodoxes de la russe. Et immédiatement, les Ottomans répondent que si c'est comme ça, ce serait la guerre entre Français défendeurs des catholiques, Russes défendeurs des orthodoxes et les Anglais défenseurs des Juifs. Les Juifs européens sont libres d'entrer dans l'Empire ottoman à condition de prendre la nationalité ottomane, puisque l'État se modernise et il a maintenant un code de nationalité. Enfin, il est en train d'en adopter un. La France, évidemment, va essayer de bloquer le projet anglais. Et donc, Guizot lance un projet d'une internationalisation de Jérusalem, ce qui fait long feu, mais ce n'était pas le but recherché. Le but était de bloquer la demande anglaise. Du coup, les Ottomans répondent « Mais on n'a pas besoin de tout ça, toutes ces protections, puisque l'édit de Gulenet assure la protection à tout le monde. » Et c'est comme ça que l'édit de Gulenet, dont le sens fondamental était d'assurer le maintien au pouvoir de la classe dirigeante, devient maintenant l'argument disant qu'il a franchi les non-musulmans de toutes les mesures qui sont, disons, abaissantes pour eux. Donc, à chaque fois que les Européens vont dire non-chrétiens, juifs ou non-musulmans, juifs ou chrétiens, les Ottomans vont se répondre Gulani. Les changements de statut dans la société ottomane vont se répercuter dans l'habit. Vous voyez ici donc ce portrait du jeune Abdulmajid Ier au moment de son avènement. Et quelques années après, le même Abdulmajid, face en costume ottoman en redingote qu'on appelle l'ottoman et en fez, avec en face de lui la reine Victoria et l'empereur Napoléon III. Donc sur le premier, on est encore en costume oriental. Maintenant, on est dans le costume moderne. Le fez ou tarbouche étant un symbole laïque, puisque pour la première fois, c'est une coiffure commune aux musulmans et aux non-musulmans, et elle est devenue obligatoire pour tous les fonctionnaires de l'Empire ottoman, ce qui explique pourquoi les Européens au service de l'Empire ottoman ou de l'Égypte porteront le tarbouche jusqu'à la fin de l'Empire ottoman et en Égypte jusqu'en 1952, puisque ça fait partie du costume officiel et que justement le sens du tarbouche, c'est que c'est la première coiffure qui n'a pas une signification religieuse. Donc, on change le vêtement, on porte une redingote, vous avez là, qu'on appelle la stambouline, le fez ou le tarbouche, mais aussi l'espace se transforme. Je ne vous ai pas présenté quand même Jérusalem en 1840, ça doit être David Roberts, je pense. Évidemment, il n'y avait encore que la vieille ville, là on voit évidemment le Haram el-Sharif. Vers 1830-1840, la pénétration économique européenne commence vraiment à faire sentir ses effets. Les termes de l'échange colonial ou dit colonial deviennent prépondérants. L'Europe vend des produits manufacturés de façon croissante et achète en contrepartie des produits agricoles ou minéraux. Sous pression britannique, le gouvernement ottoman a abandonné la pratique des monopoles de production et de commercialisation et le système de capitulation interdit d'imposer des droits élevés. Certes, dans les années 1860, la diplomatie ottomane obtiendra de pouvoir porter les droits de douane jusqu'à 8%, mais en comparaison des pratiques des droits de douane en Europe et en Amérique au 19e siècle, c'est absolument dérisoire, hein, puisque la France ou les États-Unis ou l'Allemagne pratiquaient des droits de 30 ou 40% sur les produits importés. Il découle évidemment de cette faiblesse du protectionnisme un déclin inévitable de l'artisanat, la richesse se concentrant dans la terre et dans la commercialisation des produits de la terre. Or, au moment où l'invasion économique européenne se produit, c'est la fin du petit âge glaciaire et le début de la phase de réchauffement climatique sur laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Bon, avec l'interrogation, je vous ai dit que nous ne savons pas si le réchauffement climatique qui commence vers 1840-1850 est déjà anthropique ou non. Il le sera plus tard, en tout cas, de façon certaine. Mais le réchauffement commence vers 1840-1850. Donc, ça facilite, évidemment, la remise en culture des littoraux et des vallées de l'intérieur. Il y a aussi une révolution des transports. Je l'avais expliqué, je vous le rappelais, que les conquêtes arabes avaient mis fin à la roue, puisque que toute l'économie du monde musulman avait tourné sur le 4x4, qui était le chameau et le mulet, Et donc, le 4-4 permet la piste et non pas la route. La route est obligatoire quand vous avez des roues pour transporter des charrettes. Et maintenant, la pénétration économique européenne implique la construction de routes partant des ports littoraux vers l'intérieur des terres. Ces ports littoraux, même si une longue histoire renvoyant à l'antiquité la plus ancienne, se comportent comme des villes neuves, comme des villes nouvelles, mettant en valeur leur environnement agricole et drainant des produits de l'intérieur pour les exporter vers l'Europe. Donc vous avez deux mouvements. Les ports renaissent, ils établissent une première ceinture de culture agricole sur des terres qui sont remises en culture avec la fin du petit âge glaciaire, et puis ensuite ils drainent à des kilomètres de distance les produits de l'intérieur. Et au-delà, les ports sont maintenant liés dans les décennies 1840 avec des navires à vapeur qui assurent le transport méditerranéen, ce qui signifie aussi à notre échelle des quantités transportées. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, c'est aussi la disparition des quarantaines, puisque la peste disparaît de la Méditerranée dans la décennie 1840. Alors, sur cette gravure de l'époque, vous avez Beyrouth aux alentours de 1850. Évidemment, ce n'est pas le Beyrouth d'aujourd'hui, mais Beyrouth est le cas emblématique des transformations du littoral. Tout ça, c'est la faute à Ibrahim Pacha, qui en 1836 a autorisé la création d'une jetée et de construire un lazaret dans ce petit port qui devient ainsi accessible aux navires européens. Beyrouth peut ainsi capter le commerce de la soie du Mont Liban et des produits de l'intérieur syrien. Les commerçants européens s'y installent. Et on a une croissance dynamique extrêmement rapide, puisqu'on estime que Beyrouth devait avoir 6 à 8 000 habitants en 1820, 10 000 en 1830, 15 000 en 1840, 40 000 en 1850. Et cette évolution va s'accélérer quand en 1857, la Porte accorde à une compagnie française la conception d'une route carrossable à péage traversant la montagne libanaise par un col à 1500 mètres, le col de Baïdar, et allant jusqu'à Damas. La route Beyrouth-Damas de 112 km pourra donc être faite en 12 à 15 heures, ce qui est une révolution totale dans les transports. La route Beyrouth-Damas, donc, qui sera ouverte en 1862, si mes souvenirs sont... 63. Va évidemment accélérer la croissance démographique et économique de Beyrouth, qui va aussi entraîner Damas, puisque comme Damas est le point de sortie de la route Beyrouth-Damas, les produits de l'intérieur syrien vont arriver sur Damas pour être ensuite transportés sur Beyrouth. Donc on aura deux villes en croissance, Beyrouth et Damas, tandis que les autres villes syriennes seront plutôt stagnantes. Alors, à la fois, la région est sous-peuplée, mais en même temps, la montagne est surpeuplée. Donc, on va voir un mécanisme classique dans l'histoire méditerranéenne. Les gros villages souches de montagne vont déverser génération après génération leur population vers les littoraux et vers les villes de l'intérieur. C'est évidemment valable pour le Proche-Orient, mais c'est aussi l'Espagne, l'Italie, etc., au XIXe et XXe siècle. On a besoin de main-d'œuvre pour remettre en culture les espaces de basse altitude, qui n'est pas sans difficulté du fait de la malaria. On a donc maintenant un courant permanent d'émigration des villages souches vers les plaines et les vallées, d'aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur, c'est-à-dire que non seulement les plaines littorales sont remises en culture, mais on entreprend la reconquête de la Badia sur les Bédouins. Ceci est facilité par l'arrivée des immigrants, les Mouagirs. Ces immigrants, ce sont des centaines de milliers de musulmans qui fuient les Russes dans le Caucase et les Balkans, en particulier des Tchétchènes et des Tcherkesses, des Circassiens. Alors, ils sont majoritairement réinstallés, pour en partie les Circassiens, dans les Balkans et en Anatolie, mais aussi dans les provinces syriennes. À ces Tcherkesses et Tchétchènes s'ajoutent aussi des Algériens fuyant la colonisation française de l'Algérie, qui sont établis en Galilée et dans la région de Damas par le pouvoir ottoman. Mouvement qui s'accélère quand l'émir Abdelkader est autorisé à s'installer dans les années 1850 à Damas. D'ailleurs, pour la petite histoire, parce que c'est peu noté, en 1870, les musulmans algériens seront rejoints par une vague d'immigrants juifs algériens qui refusent le décret Crémieux de naturalisation des juifs et qui préfèrent s'installer auprès de l'émir Abdelkader que de rester sous l'autorité française. Il y a aussi des Kurdes qui sont installés dans ces espaces de l'intérieur. Là, vous avez des mécanismes qui peuvent prendre des natures confessionnelles. Par exemple, en Syrie centrale, on remet en culture des espaces et donc on fait appel pour les moissons à des montagnards qui sont soit des Alaouites, soit des Ismaéliens, donc des chiites à cet imam mais pas à 12. Et puis progressivement, ces ouvriers agricoles temporaires pour les moissons s'installent définitivement. Et on va donc se trouver dans une situation qui va peser lourd sur l'avenir de la Syrie jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, dans la région de Hama, on aura des grandes propriétés détenues par des notables sunnites, mais avec des ouvriers agricoles ismaéliens et surtout alaouites, se sont installés dans le cadre de ces migrations de population du milieu du XIXe siècle. Un exemple, parce qu'il est bien illustré, de cette reconquête de l'intérieur est représenté par ces deux cartes. Ici, vous avez le Haran de Jabal al-Duruz, la montagne des Druzes. Vers au début du XIXe siècle, vous voyez les points là sont les points habités. Et puis la même carte vers 1865, vous voyez la croissance accélérée du nombre de villages entre 1820 et 1860. C'est le moment où la montagne des Druzes devient la montagne des Druzes. C'est-à-dire où les moments où les Druzes s'installent massivement dans cette montagne. Et c'est tout à fait significatif de cette double colonisation, donc colonisation de l'intérieur et colonisation des plaines littorales, qui sont les deux axes de peuplement du Proche-Orient. On a maintenant des esquisses de spécialisation agricole. Par exemple, cette montagne des Gruzes et le Haran se spécialisent dans la culture des céréales, du blé, qui est transporté sur Damas. Et là, de Damas, ça part vers Beyrouth pour le marché européen. Donc, on voit la jonction entre le peuplement druze de la montagne et le commerce européen via Damas et la route Beyrouth-Damas. Autre élément significatif en Syrie centrale et en Syrie du Nord, mais aussi en Transjordanie, c'est le début de la réoccupation des villes mortes. Il y a tout un réseau de villes dites mortes qui sont des villes de l'Antiquité tardive, des gros villages de l'Antiquité tardive et probablement encore de l'époque omeyyade, voire un peu au-delà, mais en tout cas qui ont été abandonnées vers le 9e, 10e siècle de notre ère. Et dans les années 1860-1880, commence la réoccupation des villes mortes c'est-à-dire des populations paysannes s'installant dans ces maisons datant d'un bon millénaire et les reconstruisant, mettant des toits, etc. Il y a spécialisation agricole. L'intérieur, c'est évidemment des céréales. Les plaines, enfin le mont Liban, c'est la soie à destination de l'Europe, et en particulier de la France et de Lyon. Le littoral palestinien, c'est un peu plus tard, c'est vers 1870-1880, va se lancer dans la production d'agrumes, les oranges de Jaffa à destination européenne. C'est-à-dire que cette restructuration de l'espace est liée à un mouvement d'appel de l'économie européenne qui draine les produits agricoles, mais qui en même temps rend l'agriculture rentable dans toute cette région. Autant l'artisanat urbain décline, autant l'agriculture devient rentable. Et ça va être accéléré par le code foncier ottoman de 1858, que je n'ose pas essayer de vous expliquer parce que je n'ai pas encore essayé à le comprendre malgré les milliers de pages d'explications que j'ai eues dans ma carrière sur le sujet, puisque c'est un mélange d'héritage des législations précédentes, de volonté de mise en valeur et de nouveaux droits européens. Ce qui compte, c'est que le code foncier ottoman de 1858 exige l'enregistrement des titres de propriété pour créer un cadastre, même si ce cadastre n'est pas encore terminé aujourd'hui dans certaines régions. Du coup, les seuls qui disposent des capitaux pour la mise en valeur des terres, plus de l'influence politique pour faire l'enregistrement, ce sont les notables. Et donc, la grande notabilité sunnite au Proche-Orient va profiter du code foncier ottoman et de ce mouvement d'appel vers le marché européen pour enregistrer les terres à son nom et en même temps d'investir dans ces terres. Alors, il y a aussi des chrétiens, bon, au Liban, par exemple, la grande famille des Sursaux à Beyrouth va créer de grands domaines agricoles à son profit. Ce sont des Grecs orthodoxes. Mais tout ce mouvement constitue donc aussi un mouvement vers la grande propriété dans l'intérieur des terres. Grande propriété qui est liée à la fois à l'influence politique des gens, mais aussi au fait que ce sont les seuls qui peuvent mobiliser les capitaux nécessaires pour la remise en valeur des terres. Alors, tout ça, évidemment, va s'accélérer après 1860, quand les Ottomans ont remis de l'ordre sur place pour chasser les Bédouins, assurer la sécurité publique. Donc, la seconde moitié du XIXe siècle voit au Proche-Orient le développement d'un front pionnier, d'une frontière au sens américain du terme, qui repousse inexorablement le domaine du nomadisme. Alors, les contemporains ont fait la comparaison avec la conquête de l'Ouest, hein, le fort ottoman qui contrôle une région qui permet ensuite aux paysans de s'installer et de mettre en culture en chassant les Indiens, et ainsi de suite, c'est fort apache. Mais c'est aussi Gerash, Kerak, Beersheba au Proche-Orient. La grande différence avec la conquête de l'Ouest, c'est que les Ottomans ne massacrent pas les nomades, contrairement aux Américains. Au contraire, les Bédouins sont intégrés au processus par le biais de la sédentarisation, les chefs tribaux enregistrant les nouvelles terres agricoles à leur nom et se transformant en grands propriétaires fonciers, tandis que leurs camarades tribaux, eux, deviennent des ouvriers agricoles, ceux qui trouvent ça très désagréable. Le tribalisme, c'est-à-dire le rassemblement dans un cadre plus ou moins territorial de gens se revendiquant d'une même généalogie et se devant au moins en principe une certaine solidarité, ne se limite donc plus au nomadisme, mais se poursuit dans la sédentarisation. Ça, c'est un des grands legs du XIXe siècle. Le tribalisme demeure, mais il n'est plus le fait du nomadisme. En Égypte, même évolution, mais j'aurai l'occasion très largement d'en reparler quand on abordera l'évolution de l'Égypte. Le statut de protection des non-musulmans, qui les met dans une situation de soumission et d'honneur réduit par rapport aux musulmans, je l'ai dit, date de la conquête musulmane et en fait était l'équivalent d'un code de l'indigénat, comme ça s'est construit dans les empires coloniaux européens. Il ne s'agissait pas de tolérance au sens moderne du terme, mais rappelons qu'en terre d'islam, on n'a pas l'équivalent de l'expulsion des juifs de France, d'Angleterre et d'Espagne, ainsi que des musulmans pour l'Espagne au XVe siècle, au XIVe et XVe siècle. De même, en islam, vous n'avez pas l'équivalent de l'Inquisition traquant inlassablement ceux que l'on soupçonne être de faux convertis. Une fois pour toutes, la situation des non-musulmans n'était pas particulièrement enviable, mais c'était bien plus enviable que celle d'un non-chrétien dans l'Europe chrétienne médiévale et même moderne. Hein, il faut que les choses soient claires. Sur ce point. Comme on l'a déjà dit, je n'y reviens pas, depuis la conquête ottomane au début du XVIe siècle, la population chrétienne croît plus vite que la population musulmane. Que, on l'a dit aussi, lors de la prise de Constantinople, le 29 mai 1453, ou dans les temps qui ont suivi, en tout cas les mythes de fondation sont là, l'Empire ottoman a reconnu deux églises chrétiennes, comme étant les églises officielles. C'est l'église orthodoxe de Constantinople, le patriarcat œcuménique, et l'église arménienne, le patriarcat arménien. Et donc, les Grecs de Constantinople, ce qu'on appelle les phanariotes, puisque le patriarcat est installé maintenant dans le quartier du Phanar, donc à Constantinople, et les Arméniens sont devenus des instruments de l'administration ottomane dans les provinces, en particulier dans les Balkans. Les Phanariotes ont joué un rôle important dans la gestion des populations chrétiennes orthodoxes des Balkans, en particulier en Roumanie. Quant aux Arméniens, ils soutenaient le système financier de l'Empire, il finançait l'État, ce qui n'était pas une position enviable puisque régulièrement on décapitait les banquiers quand ils déplaisaient aux autorités ottomanes. Je sais que certains aujourd'hui souhaiteraient la même chose en France. Mais il faut dire qu'honnêtement, ça revenait à peu près à la même chose que la tasse de café amer envoyée aux ministres dans le même système de gouvernement. Alors, je vous avais expliqué la progression de l'uniatisme grâce à la progression des missionnaires catholiques. La concurrence entre catholiques et protestants, la défense des orthodoxes qui se modernisent pour faire face à la concurrence catholique et protestante qui sont la protection. Alors, chacune des communautés chrétiennes va se construire des mythes de fondation, qui sont doubles. D'abord, un, ils ont la vraie foi, tandis que tous les autres sont dans l'erreur. Bon, c'est la phrase célèbre concernant l'église maronite, et la rose parmi les épines. Les épines, c'est les autres chrétiens, hein, c'est pas les musulmans. En même temps, elles doivent leur existence soit aux conquérants musulmans, soit aux conquérants ottomans, ceci étant très largement mythique, puisque pour les historiens récents, en fait, les communautés se sont structurées sur des bases fiscales, tout simplement parce qu'il y avait des impôts sur les non-musulmans, que c'était des impôts dits de répartition, c'est-à-dire que l'autorité ottomane disait voilà, les chrétiens de telle ville doivent payer tant. Donc, ils étaient obligés de s'organiser pour lever l'impôt entre eux, pour donner ça à l'autorité, ce qu'on appelle un impôt de répartition. Bah, du coup, il s'est structuré. Il y avait des gens qui avaient le pouvoir, pour, suffisamment de pouvoir et d'autorité pour lever de l'impôt sur les autres membres de la communauté. Et puis ensuite, progressivement, à partir de chaque lieu où des communautés s'étaient créées, ça se structure en communautés plus vastes à travers de l'Empire. Donc, ces communautés chrétiennes vont se prétendre toutes datées de Mehmed de Fatir, là. Grande Constantinople, qui sont largement le produit de 2 siècles et demi d'histoire, et en particulier d'histoire fiscale. Dans les Balkans ottomans, la communauté orthodoxe s'est divisée en entités nationales, grecques, bulgares, serbes, roumains, se revendiquant en général les mêmes territoires au nom de droits historiques, d'où le fait que la renaissance nationale balkanique s'accompagne de tensions ethniques de plus en plus fortes. Et dans les Balkans, on a un effort de recentralisation ottomane pour maintenir l'ordre public et au contraire une pression constante des puissances européennes pour accroître la marge d'autonomie des populations chrétiennes de l'Empire en même temps, dans les Balkans, en même temps en les dotant d'un territoire. Donc on vient dans les situations balkaniques, un des flous juridiques où on fait la distinction entre une souveraineté ottomane, qui est un pouvoir direct, et une suzeraineté ottomane, au contenu nettement plus flou, par exemple sur les Serbes, les Serbes à l'époque, et puis les Roumains, les Bulgares, c'est un peu plus tard. Au Proche-Orient, la principale préoccupation ottomane porte sur le Mont Liban. Donc, vous rappelez, il y avait un émir du Mont Liban qui était en fait le boss des boss, c'est-à-dire le chef de l'ensemble des fermiers fiscaux du Mont Liban. Donc ces émirs du Mont Liban et ces chairs du Mont Liban, Druze et Maronite, avaient un double sens juridique. D'un côté, ils étaient considérés comme des fonctionnaires ottomans chargés de lever l'impôt par ferme fiscale, Mukhtara, donc on les appelle les Mukhtara Jiyin, mais de l'autre côté, eux se comportent en seigneurs féodaux, puisque de toute façon, ils ont l'autorité sur place, ils ont un émir, et ils passent le temps à se révolter contre l'émir, et l'émir passe leur temps à leur couper la tête s'ils se révoltent, ce qui fait une histoire un peu mouvementée dans la montagne libanaise, en particulier à l'époque du long règne de l'émir Bachir de Chehab, qui en a fait pas mal dans son histoire, entre autres de liquider ses adversaires comme Bachir Jumblat, ce qui fait qu'il y a des vieilles positions entre les Jumblat et les Chehab. En tout cas, ces émirs et ces chers disposent des pouvoirs de justice et de forces armées. Bachir de Chehab avait ranié Ibrahim Pacha et a été entraîné dans sa chute. D'où le fait qu'en 1841, quand les Ottomans reviennent, au nord, la montagne est peuplée de Maronites, et au sud, de Druzes, et les émirs se comportent comme s'ils appartenaient aux deux religions. Ce qui était sympa, on se dit, Bachir de Chehab et ses prédécesseurs, on ne savait plus très bien s'ils étaient Druzes ou Maronites. Ils disaient que ce n'était pas une question à poser. Là, la question devient plus difficile parce que la croissance démographique des Maronites est extrêmement importante. Et donc, ils migrent du nord vers le sud en devenant des ouvriers agricoles ou des paysans soumis à l'autorité des émirs ou chers druzes. Et du coup, les druzes se sentent mal à l'aise. Et c'est une des raisons pour lesquelles, on l'a vu tout à l'heure, ils émigrent de la montagne libanaise vers le Horan, vers la montagne des Druzes, en Syrie. Le retour des Ottomans en 1840-1841 ne signifiait pas une restauration de l'ordre ancien. Gulane annonce la suppression des fermes fiscales, donc de tout le système qui fait régir la montagne libanaise depuis la conquête ottomane. Et puis d'autre part, la population chrétienne qui est de plus en plus éduquée grâce à l'action de l'Église maronite, des ordres religieux maronites et des missionnaires, n'accepte plus nécessairement l'ordre traditionnel des notables. Les premiers troubles éclatent en 1841 à l'occasion du retour d'exilés druzes chassés par Ibrahim Pacha et par Bachir II. Ils revendiquent les biens qui ont été redistribués à d'autres et les autres, évidemment, refusent. Alors, ce qui est au départ un problème classique de biens confisqués et que les anciens propriétaires revendiquent devient un problème confessionnel, puisque une partie des biens des Druzes ont été redistribués à des Maronites. Et donc, on aura, et c'est ça l'essence de ce qu'on va appeler dans l'histoire libanaise les événements, les harakat des 1840-1860, on aura un double conflit à la fois matériel, possession des terres, et confessionnel, opposant druzes et maronites. Mais le problème est qu'à ce double conflit social et communautaire, se double un conflit franco-britannique. Les maronites, étant catholiques, sont protégés par les Français. Donc, automatiquement, les Druzes passent sous protection britannique. Donc, toute violence entre Druzes et Maronites débouche sur une opposition entre Français et Britanniques. On passe ainsi de ce qui était avant 1840 une politique des notables, quasi féodale, mais où la question communautaire était absente, puisqu'on ne savait pas qui. À quelle communauté appartenaient les chefs, à une opposition croissante de deux communautés qui sont en train de se transformer en acteurs politiques disposant de soutien de grandes puissances extérieures. Les Européens, voilà un conflit pluriséculaire entre musulmans et chrétiens, puisqu'ils ont toujours la vieille habitude de transférer dans le passé les querelles contemporaines, tandis que les Ottomans, voilà la manifestation combien la périphérie ottomane et arabe est particulièrement arriérée par rapport au centre qui, lui, est civilisé. Donc, dans la pensée ottomane, il faut mettre fin à tous ces problèmes en recentralisant et en réinstauration une gestion directe de l'ordre ottoman. Mais les Européens n'en veulent pas puisqu'ils ont leurs protégés. Ils ne vont pas laisser leurs protégés passer sous le commandement des Ottomans. Donc, par des négociations compliquées entre Français, Britanniques et Ottomans, on arrive à un premier compromis divisant le Mont-Liban en deux districts, celui du nord confié à un gouverneur maronite et celui du sud à un druze. On y ajoute en 1845 un conseil administratif par district où les communautés doivent être présentes afin d'équilibrer le pouvoir du gouverneur trop susceptible de favoriser les gens de sa propre communauté. Le résultat de l'intervention européenne est donc de faire du sectarisme ou du confessionnalisme, selon les termes que vous voulez utiliser, l'aspect indissociable de la modernisation. La confessionnalisme n'est pas un héritage du passé, c'est le produit de la modernisation des structures sociales du XIXe siècle. Les missionnaires catholiques et protestants sont aussi les apôtres d'une civilisation moderne, identifiée au christianisme, et qui pousse à une séparation croissante entre chrétiens et musulmans, puisque les musulmans corrompent les bons chrétiens, dans cette utopie chrétienne, protestante ou catholique, que les missionnaires essayent d'établir au Proche-Orient. De même, les missionnaires étendent l'éducation, l'enseignement, et les populations suivent de moins en moins les notables traditionnels. Alors, les paysans commencent à dire que ce sont eux les vrais propriétaires de la terre. Ça pose déjà un problème quand le cher et maronites et que les paysans et maronites, mais ça devient catastrophique quand les paysans sont maronites et le cher est druze. Et à chaque moment dans l'affaire, les consuls européens sont présents dans le règlement des conflits locaux et se réfèrent à leur ambassade. Donc, on a cette situation où un moindre conflit de village va se répercuter dans les relations diplomatiques franco-britanniques. Et évidemment, les acteurs locaux vont jouer. Les chefs druzes vont expliquer aux Britanniques qu'ils sont soumis à l'impérialisme franco-maronite d'une église catholique obscurantiste. Quant aux maronites, ils vont faire avaler de sacrées pilules aux Français. Ils vont entre autres inventer une très belle lettre de Saint-Louis, signée par Saint-Louis lui-même. Il n'était pas au courant qu'il était Saint-Louis à l'époque, mais ce n'est pas grave. Aux maronites. Et les Français vont avaler que, depuis Saint-Louis, les maronites sont les protégés des Français. En fait, la lettre a été forgée vers 1845 par un abbé maronite qui s'appelait l'abbé Nicolas Mourad, à qui la langue arabe doit aussi autre chose que la lettre de Saint-Louis maronite, mais la première utilisation du terme salébiyine, croisé, dans la langue arabe. C'est lui qui a introduit le mot croisé dans la langue arabe, dans ses écrits en arabe. Donc, saluons au passage l'abbé Nicolas Mourad. Donc, la projection chrétienne de l'Europe industrialisée se retrouve aussi dans la Palestine voisine. L'occupation égyptienne a permis l'ouverture de cette région à la présence européenne. Après l'échec britannique d'instaurer un protectorat sur les Juifs, les millénaristes protestants obtiennent en 1842 la création d'un évêché protestant anglo-prussien à Jérusalem, dont la mission essentielle est de convertir les Juifs locaux au vrai christianisme dans le cadre de l'avènement du millénium. Hein, toujours. Ce sera un échec. Et finalement, comme d'habitude, les missionnaires britanniques et allemands se tourneront vers les chrétiens locaux pour essayer de les convertir au christianisme et très discrètement aux musulmans. La création de l'évêché anglo-protestant de Jérusalem va provoquer la réaction des orthodoxes qui rétablissent en 1845 le patriarcat orthodoxe de Jérusalem qui existait toujours sur le papier, mais le patriarche orthodoxe résidait à Constantinople. Tandis que là, il revient à Jérusalem pour faire face à la menace protestante qui fait du prosélytisme chez les orthodoxes. Donc, ce clergé tenu, qui est composé de Grecs, du patriarcat de Jérusalem, se lance dans une politique d'importante acquisition foncière dans la région de Jérusalem, ce qui a des influences jusqu'aujourd'hui, puisque la moitié de la ville juive de Jérusalem, le sol appartient au patriarcat orthodoxe de Jérusalem qui le loue aux institutions juives, ce qui pose quelques problèmes réguliers entre le patriarcat et l'État d'Israël. Ça, c'est l'Église orthodoxe et c'est Constantinople. Mais indépendamment de Constantinople, la Russie entretient une mission ecclésiastique dans la ville sainte chargée de veiller sur les pèlerins russes qui viennent chaque année par milliers, le plus souvent à pied, au moment de la Pâque orthodoxe. Du coup, l'Église catholique doit réagir et rétablit à son tour le patriarcat latin de Jérusalem, qui a été supprimé depuis la fin des croisades. Les premiers titulaires du patriarcat latin seront des Italiens. Ce qui énerve les Français parce qu'ils auraient préféré mettre des Français et pas des Italiens à la tête des patriarcats parce que c'est eux qui protègent les catholiques. Mais le patriarcat latin a plutôt une faiblesse pour l'Italie, enfin pour les États italiens dans cette époque. Les Juifs de Palestine, dans cette période, sont particulièrement pauvres. Religieux pour l'essentiel, ils vivent des aumônes des Juifs du monde entier. Les efforts de conversion des missionnaires protestants inquiètent non seulement les Juifs locaux, mais aussi les Juifs européens. Donc, pour essayer d'empêcher les Juifs locaux d'être convertis par les missionnaires protestants, les Juifs d'Europe envoient de l'argent et des aumônes aux Juifs religieux pour qu'ils n'aient pas la tentation matérielle de la conversion contre de la monnaie. Mais en même temps, les Juifs européens trouvent que c'est bien d'envoyer des aumônes aux juifs religieux de Palestine, mais que ce n'est pas suffisant parce qu'il faudrait quand même les apprendre à travailler et à gagner leur vie. Donc, il y a l'équivalent des missionnaires juifs européens qui viennent essayer d'apprendre aux juifs de Palestine à travailler pour devenir enfin productifs et cesser de peser sur les finances de leurs coreligionnaires européens. Mais les juifs en question, les juifs religieux, trouvent que c'est absolument insupportable comme prétention, que c'est une manœuvre d'européanisation, voire de laïcisation, et que c'est une atteinte profonde au judaïsme. Cette concurrence des grandes puissances européennes va se concentrer sur les lieux saints chrétiens. En 1847, une banale querelle de moines catholiques et orthodoxes à Bethléem se transforme ainsi en querelle internationale. Les représentants français veulent remettre en cause ce qu'ils appellent les empiétements orthodoxes des dernières décennies. La Deuxième République, la seconde si vous préférez, lance une action diplomatique auprès de la Porte à l'automne 1848. On est encore dans une république des républicains. Puis élargit en 1849 la question à l'ensemble des lieux saints. Les Ottomans tentent de ménager les uns et les autres, ce qui va aboutir en 1852 à la législation du statu quo nunc, donc du statu quo de maintenant, qui est un ensemble de textes de l'autorité ottomane définissant les droits de chacune des communautés chrétiennes sur les lieux saints. Ce qu'on appelle donc la législation du statu quo. Mais c'est trop tard. La Russie élargit la question à l'ensemble des Balkans, où une protection russe effective sur les orthodoxes pourrait se transformer en protectorat de fait. Le 9 janvier 1853, le tsar Nicolas Ier fait cette fameuse ouverture à l'ambassadeur britannique à Saint-Pétersbourg. La Turquie est en pleine désorganisation, surtout en français dans le texte, puisque c'est la langue diplomatique. Le tsar parle à l'ambassadeur en français. Il faut nous entendre à son sujet. Tenez, nous avons sur les bras un homme malade. Ce serait, je vous dis franchement, un grand malheur si un de ces jours il devait nous échapper, surtout avant que toutes les dispositions nécessaires fussent prises. Et la dépêche continue. Mais enfin, ajouta l'empereur pour clore l'entretien, ce n'est point le moment de parler de cela. Vous voyez donc sur cette caricature de l'époque, Napoléon III et le premier ministre britannique se consultaient au chevet de l'homme malade, tandis qu'en haut, le spectre de la mort. Ils avaient de magnifiques caricatures au XIXe siècle. Le tsar a à l'esprit une sorte de partage de la Pologne appliquée à l'Empire ottoman, dont une partie pourrait continuer d'exister sous forme de protectorat. Donc là, vous avez une caricature britannique qui serait sur un jeu de mots, hein. C'est l'ours russe en train de se saisir de la dinde turque en anglais. C'est dans le Punch, 9 avril 1853. Donc les hommes britanniques, d'État britannique hésitent, certains y voyant la possibilité de libérer les chrétiens des Balkans de la domination musulmane, mais la France de Napoléon III veut saisir l'occasion pour remettre en cause le traité de Vienne de 1815 et maintiennent une attitude ferme. Comme les armées russes envahissent les Balkans en 1853, la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre et lancent une opération conjointe en Crimée en 1854. Alors, la guerre de Crimée et l'émancipation des non-musulmans sera l'objet du cours prochain, la semaine prochaine. Je vous remercie.